nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour, nous allons parler de suffrage universel aujourd'hui en compagnie de Roland Drago. Monsieur Drago, bonjour.
Bonjour madame.
Je rappelle que vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques, juriste, professeur de droit, président du tribunal suprême de la Principauté de Monaco et secrétaire général de l'Académie internationale de droit comparé. Et vous exercez plusieurs fonctions, notamment vous co-dirigez l'encyclopédie Dalloz et puis vous appartenez à plusieurs comités de rédaction, notamment de la Revue internationale de droit comparé. Je m'arrête là parce que votre biographie...
Oh mais bien sûr, mais c'est bien suffisant.
Est assez étouffée. Nous allons donc parler de suffrage universel, un concept fondateur de la démocratie et pourtant il a pu exister des démocraties sans suffrage universel et jusqu'à récemment ce suffrage universel était restreint, il était masculin jusqu'en 1944. Le suffrage universel est donc une notion évolutive, monsieur Drago, dont les frontières reculeraient au fur et à mesure. Est-ce qu'on est arrivé à une définition précise et définitive du suffrage universel?
Alors le suffrage universel signifie de façon étymologique que les citoyens, et le mot citoyen est lié à celui du suffrage universel, c'est-à-dire les personnes qui dans un État ont des droits civiques, les citoyens, par leur vote, peuvent élire leurs représentants dans des assemblées qui détiendront le pouvoir, notamment le pouvoir législatif. Je pense que tout est né dans les idées de Jean-Jacques Rousseau. Finalement, c'est chez lui qu'on pourrait trouver l'exercice du suffrage universel, le domaine du suffrage universel, les mécanismes du suffrage universel. Et il a d'ailleurs lui-même donné l'idée par avance de ce que seraient les objectifs du suffrage universel, l'élection des représentants, mais aussi l'adoption par les citoyens, par la voie d'un plébiscite ou d'un référendum, des dispositions de la loi. Jean-Jacques Rousseau a parlé de ces lois qui sont adoptées par les citoyens dans leur ensemble, même si, à son époque, ça ne correspondait qu'à des vues de l'esprit.
Donc la première fois que l'on parle ensuite de suffrage universel, c'est 1793 en France, sans application évidemment.
Vous avez raison, c'est-à-dire que le suffrage universel ne figure pas dans la Déclaration des droits. Quand la Déclaration des droits est adoptée en 1789, ce sont les droits individuels de chaque personne, la liberté de la presse, la liberté de penser, la liberté religieuse, etc. Mais le suffrage universel se présente comme une sorte de technique et par conséquent, il n'est pas inscrit dans la Déclaration des droits. Il n'empêche que les premières élections qui ont eu lieu après la naissance de la monarchie représentative, c'est-à-dire à partir de 1790-91, eh bien, les élections se sont faites, non pas au suffrage universel, mais les élus, et notamment les députés, ont été élus par les citoyens, mais à une époque où même le régime nouveau avait accepté, avait consacré un suffrage censitaire en estimant que seuls ceux qui avaient un minimum de ressources, c'est-à-dire un minimum de connaissances, pouvaient valablement élire les députés et les autres représentants.
Donc il faut entendre 1848 pour parler réellement de suffrage universel.
Oui, 1848 a été pour la France la date majeure de reconnaissance du suffrage universel, même si le système censitaire avait été progressivement, sous la Restauration et sous la Monarchie de Juillet, amoindri avec des exigences moindres. Il n'empêche que c'est seulement en 1848 qu'a été institué le suffrage universel et que ce suffrage universel a servi à élire les premiers députés de l'Assemblée nationale, assemblée unique sous le régime de la Seconde République, et à élire le président de la République, lui aussi, au suffrage universel.
Et ensuite, 1944, il n'y a pas eu d'évolution entre 1848 et 1944,
Alors,
le vote des femmes?
Entre 1848 et 1944 en France, il n'y a pas eu d'évolution majeure, sauf au fait que le suffrage universel a été appliqué à toute époque, même si sous le Second Empire, il a été quand même dénaturé par le système de la candidature officielle. Il n'empêche qu'il n'a pratiquement pas bougé, alors que dans d'autres pays, comme notamment le Royaume-Uni, le système du suffrage universel qui était pratiqué avec certaines réserves au XIXe siècle a été étendu et surtout a été étendu aux femmes, ce qui en France semblait impossible et n'a été réalisé que par la réforme décidée par le général de Gaulle en 1944. En revanche, le suffrage universel depuis cette époque en France, et sans doute ailleurs, mais en France c'est très, très net, n'a cessé de s'étendre. À mon avis, il a pratiquement doublé depuis 1944. Les femmes, les militaires, les jeunes de 18 ans, les étrangers, tout cela a abouti à augmenter de façon très considérable le corps électoral.
Donc les étrangers, précisons, les étrangers pour les élections locales, alors, si elles appartiennent
voilà. Alors là, pour les
aux pays membres de l'Union européenne.
Vous avez raison, pour les étrangers, d'une façon générale, lorsqu'ils sont naturalisés français, auparavant, il fallait encore attendre une période de 5 ans avant qu'ils puissent voter. Désormais, ils peuvent pratiquement voter dès le moment où ils sont naturalisés. Et puis alors, il y a ce régime qui est très significatif et très intéressant du point de vue politique, c'est que pour les élections locales, c'est-à-dire les élections municipales, départementales et régionales, les ressortissants des pays de l'Union européenne qui habitent la France et qui ont leur domicile peuvent voter et peuvent être élus. La seule restriction qui figure dans la disposition constitutionnelle qui a consacré cette règle, c'est qu'ils ne peuvent pas être maires ou adjoints parce que les maires et adjoints détiennent des fonctions d'État, l'État civil, la police, et par conséquent, on ne peut pas imaginer que des étrangers, dans cette vision, puissent les détenir.
Ce droit est exercé de façon étendue
oui.
en France.
Je crois qu'il a même une certaine popularité. Les populations anglaises et allemandes, c'est principalement elles qui sont en cause, plus que les populations néerlandaises, ou peut-être aussi les populations espagnoles, mais la situation est quand même assez différente, font que nous avons aujourd'hui, et c'est très sympathique, aussi bien dans les communes du Sud-Ouest que dans des communes d'Alsace ou de Moselle, des conseils municipaux qui comprennent très largement des Allemands ou des Anglais, à condition toujours que le maire et les adjoints soient de nationalité française pour la raison que j'ai dite.
Alors, Monsieur Drago, est-on arrivé aux limites du suffrage universel ? Dernièrement, le débat national porte sur le droit de vote des étrangers de façon élargie aux élections nationales. Est-ce que pour vous, c'est une question qui se pose ? Est-ce qu'elle est pertinente ?
Sur ce point, je pense qu'elle n'est pas pertinente. Et d'ailleurs, ceux qui réclament ce vote des étrangers de façon systématique ne le réclament d'ailleurs que pour les élections locales, et encore dans certaines conditions, et par conséquent, je pense qu'en dehors des exceptions qui ressortissent au droit communautaire, on ne peut pas imaginer le vote d'étrangers sur le territoire français, ou alors il faudrait imaginer une transformation complète du système, et ça ne paraît pas pensable, et en plus ça poserait des problèmes techniques et des problèmes juridiques très difficiles. Donc je crois que, autant il faut admettre que les étrangers peuvent, quand ils sont naturalisés, voter immédiatement comme citoyens français, autant le vote de citoyens étrangers n'appartenant pas au pays de la communauté européenne n'est pas concevable selon moi.
Ça vous paraît pas concevable pour des questions de difficultés techniques et administratives, ou sur le principe lui-même, vous pensez qu'il y a un corps électoral à circonscrire ?
Les deux, à la fois des motifs techniques que j'ai dit tout à l'heure et qui seraient nombreux, et puis il me semble qu'il y a un problème de principe, on est citoyen d'un pays, il peut y avoir évidemment un certain nombre d'exceptions qui sont justifiées pour tel ou tel motif, mais poser un principe général de vote des étrangers en France est une chose qui est inconcevable. Inconcevable, je le dis de façon assez nette, et je crois que j'ai raison.
Alors, on vient de définir, d'essayer de faire le tour de ce qu'est le suffrage universel. Vous l'avez dit vous-même dans la définition même de suffrage, il y a derrière une question de représentativité. À quoi le suffrage universel correspond-il ? Nous l'avons vu, donc une question de représentativité dans les chambres législatives, mais le suffrage universel sert aussi à l'élection présidentielle, sert aussi au référendum. Est-ce que pour vous, ce sont des suffrages universels différents ?
Oh oui, c'est-à-dire qu'on est là en face d'un problème qui peut paraître nouveau, qui est un problème ancien et qui risque d'être constamment transformée parce que vous le voyez, et souvent dans la presse, il y a une sorte de contradiction ou d'opposition que l'on fait entre les élections et les sondages. Et certains disent, peut-être pour dire des plaisanteries, que, après tout, les élections seraient inutiles dès le moment où on ferait des sondages qui permettraient d'avoir une vision plus complète de la chose. Mais vous avez raison, à l'origine, on peut supposer que le suffrage universel concernait l'élection des représentants pour les élections locales, des représentants pour les élections nationales, c'est-à-dire pour les chambres nationales de notre pays, si on prend le cas de la France. Mais on se rend compte que dès le début, dès le moment où le suffrage universel a été pratiqué, on imaginait aussi que le suffrage universel pouvait être utilisé d'abord pour des référendums, comme on le dit aujourd'hui, et à l'époque pour faire adopter des lois directement par le peuple. Je pensais à Rousseau, et Rousseau le souhaitait lui-même, et il y a eu des référendums ratés, en tout cas sous la Première République en France, et puis également pour désigner un chef d'État, et c'est la technique du plébiscite que Napoléon Ier a utilisée pour faire réaliser les modifications de la Constitution de l'an 8 en sa faveur. Et par conséquent, vous le voyez, dès le début, mais avec des importances quantitatives presque extrêmement différentes, dès le début, on a considéré que le suffrage universel, critère de la démocratie, devait être utilisé principalement pour l'élection des représentants, mais aussi qu'il pouvait être utilisé pour des référendums, pour employer le mot d'aujourd'hui, ou pour désigner le chef de l'État, comme Napoléon l'a fait lui-même. Alors, bien entendu, on donne un sens péjoratif au mot plébiscite, parce que justement, on considère que les populations qui ont voté pour Napoléon ont été déterminées à l'avance, mais enfin, c'est quand même un vote de l'ensemble de la population. Aujourd'hui, alors là, véritablement, on se rend compte que le suffrage universel, tel qu'il est pratiqué dans la plupart des pays, correspond à ces trois objectifs. Alors, le référendum, il y a des pays qui le pratiquent, d'autres où il est interdit. Quant à l'élection du chef de l'État au suffrage universel, c'est le cas de la France, bien entendu, depuis la modification de la Constitution en 1962, mais c'est le cas de l'Autriche, de la Finlande. Il y a d'autres pays dans lesquels l'élection au suffrage universel du chef de l'État se produit. Il y a aussi le cas des États-Unis, mais vous savez qu'aux États-Unis, c'est une élection à 2 degrés, que par conséquent, la situation est différente et qu'il faut l'écarter, en tout cas, de ce problème de la recherche des objectifs du suffrage.
Est-ce que depuis le début de la Ve République, le lien entre suffrage universel et représentativité n'est pas un peu mis à mal avec une élection présidentielle qui revêt une importance capitale, la pratique des référendums? Je veux dire par là que le lien entre suffrage universel et représentant est un petit peu perdu, ce lien n'est plus aussi fort qu'il n'était avant, d'autant plus qu'aujourd'hui se posent directement des questions de représentativité, que les femmes sont très peu nombreuses aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, que ce qu'on appelle désormais des minorités visibles ne sont pas visibles dans ces assemblées. Est-ce que pour vous il y a un effort de lien entre suffrage universel et représentativité à recréer?
Oh, vous avez tout à fait raison, vous avez tout à fait raison. Le suffrage universel a pris, avec tous les effets, tous les éléments dont vous parlez, il a pris une acception qui est tout à fait nouvelle, à la fois très large et, à certains égards, qui manifesterait un certain déclin et en même temps un certain nombre de risques. C'est tout à fait évident. Voyez d'ailleurs, en ce qui concerne le référendum, le général de Gaulle attachait beaucoup d'importance au référendum. Il l'avait fait inscrire dans la Constitution de 1958 et même M. Chirac, quand il a fait réviser la Constitution en 1993, a encore abouti à l'extension du système du référendum. On se rend compte pourtant que le référendum, surtout à une époque où le rôle de la presse et de la radio et de la télévision a augmenté, mais ça c'est un problème dont on parlera, si vous voulez bien, tout à l'heure, que la question des référendums était vraiment très faussée. On parle toujours de ce référendum Pompidou à propos de l'entrée du Royaume-Uni dans le système communautaire, un référendum obtenu très juste. On parle du référendum à propos du traité de Maastricht, où il y a eu 1 million de votes nuls parce que des associations avaient dit de voter, dites voter pour l'Europe et non pour Maastricht. Le bulletin était nul et il y a eu 1 million de votes nuls à cette occasion. Autrement dit, il y a une dégénérescence du système du référendum, dans la mesure même où le référendum est un système qui comporte beaucoup de risques. Il faut que les questions soient posées de façon très claire. En outre, d'après la Constitution, on ne peut pas utiliser un référendum dans toutes sortes de circonstances, c'est donc limité. Au surplus, le général de Gaulle a fait modifier la Constitution en 1962 par un référendum législatif, ce qui a été très vite contesté. Il y a, à propos du référendum, toute une série de difficultés qui font que même si, sur le plan de la théorie, il apparaît comme un moyen direct pour les citoyens d'exercer directement leur pouvoir, en fait, il y a des techniques et des ambiguïtés dans le système du référendum qui sont très grandes, au point que, après le référendum de 2005, à peu près toute la presse a dit « c'est sans doute le dernier référendum qu'on aura en France ».
Nous sommes en compagnie de Roland Drago, nous parlons de suffrage universel, nous nous retrouvons dans un tout petit instant.
Il est là, il est venu, le chevalier des mots, celui qui s'est battu sans peur et sans reproche pour que vive le bon français, qui nous a fait aimer la lecture et même l'orthographe, vous l'aurez reconnu, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie. Et quand il parle du vin, son vocabulaire devient gouléant, on croirait qu'il déguste les mots français. C'est un régal, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie.
Monsieur Drago, pour revenir aussi sur les questions de représentativité, est-ce que vous êtes favorable ou non à des questions de discrimination positive ou de quotas pour que les représentations au Parlement soient plus proches de la cartographie du suffrage universel ?
Oui, vous avez raison, il y a un problème, là, un problème qui est très important, mais un problème qui a des solutions qui risquent d'être finalement antidémocratiques et il faut donc l'aborder avec beaucoup de recul et beaucoup d'hésitation. Le suffrage universel, comme son nom l'indique, a cet aspect qui est quand même sa qualité principale, c'est qu'il est universel, c'est-à-dire que tous ceux qui ont la qualité de citoyen peuvent voter et peuvent voter de façon égale. Seulement, il se trouve que les votes obéissent pour chaque citoyen à des motifs, à des mobiles très particuliers, et que par conséquent, il y aura des dérives, mais qui vont heurter le principe d'égalité, c'est-à-dire qu'on ne votera pas pour des gens qui appartiennent à telle race, on ne votera pas pour des femmes, on ne votera pas, et ainsi de suite. Et par conséquent, on se demande s'il ne serait pas nécessaire d'instituer des systèmes de discrimination positive dont vous parlez, qui permettrait de garantir les droits de telle ou telle catégorie de citoyens. Il faut quand même réfléchir pour voir que ce système, même s'il peut paraître juste au point de départ, aboutirait à des classifications qui sont vraiment contraires à l'esprit même d'un système démocratique. La démocratie, c'est l'ensemble des hommes et des femmes détenteurs des droits dans un pays donné. À partir du moment où on impose, et d'ailleurs on l'a fait, il a fallu quand même modifier la Constitution, on impose des quotas masculins-féminins dans certaines assemblées, on y arrive à peu près avec, malgré tout, beaucoup de difficultés pour trouver des candidats ou des candidates. Mais pour le reste, au-delà de ce problème des sexes qui a été réglé par la voie constitutionnelle avec, dans les assemblées locales, un système d'équilibre, pour le reste, il n'est pas concevable d'imaginer qu'il puisse y avoir une discrimination positive au profit de telle ou telle profession, au profit de telle ou telle catégorie de personnes, au profit de personnes détenant telle ou telle origine. C'est impossible, ou alors c'est sans fin et on aboutit presque à un système qui touche au ridicule.
Mais pour des questions aussi de représentativité, élargissons également le débat aux questions de proportionnalité qui méritent peut-être d'être instaurées dans les assemblées.
Vous avez parfaitement raison. Et alors là, le problème de la proportionnalité, c'est un problème qui est très ancien. Il a été très complètement étudié en France à la fin du XIXe siècle par des auteurs qui ont présenté dès cette époque des mécanismes électoraux qui pouvaient sembler correspondre à beaucoup plus de justice, et le système de proportionnalité a été établi dans beaucoup de pays, et même en France. Il peut sembler un système juste, il l'est effectivement, il pose des problèmes techniques qui ne sont pas très faciles à résoudre. Il faut donc trouver des mécanismes qui aboutissent à garantir la représentation proportionnelle de telle ou telle catégorie seulement dans le domaine de la couleur politique, car au-delà de la couleur politique, on ne voit pas comment le système de répartition serait constitutionnel. On aboutit alors à des assemblées régionales, locales, c'est le cas actuellement d'ailleurs pour les conseils municipaux, où le système représentatif pour les grandes villes est utilisé de façon constante, ce qui aboutit à des majorités très nettes dans la plupart des grandes villes, mais sur le plan national, le système de la représentation proportionnelle a été utilisé en France à plusieurs reprises et il a abouti fréquemment à des résultats qui étaient plus négatifs que positifs, car même si la représentativité était accrue, cette représentativité était telle qu'elle laissait une place aux extrêmes, que par conséquent il y avait une impossibilité quelquefois d'aboutir à des majorités dans les systèmes gouvernementaux. Je pense que si le système a de la valeur, il peut correspondre au système allemand, qui est bien connu, qui consiste à faire un système électoral local pour les élections générales, je veux dire pour les élections parlementaires, un système électoral local qui est fondé sur la règle majoritaire et avec une correction au niveau national, avec un système représentatif proportionnel qui corrige la vacuité, les défauts du système majoritaire. Mais ce système-là, il y a longtemps qu'on le propose pour la France, il serait parfaitement concevable et transposable en France. Il n'y a pas de raison visible qui explique pourquoi on ne l'a pas réalisé.
Mais de façon générale, M. Drago, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une crise du sentiment de représentativité tout de même en France ?
Oui, alors là, il y a une crise du phénomène de représentativité. Il s'agit sur quoi ? Quels sont les critères ? Les critères de la représentativité, bien sûr, on peut dire que les femmes ne sont pas assez représentées. Quelquefois, elles le sont trop. J'entendais hier, à propos du ministère de la Justice, dire que par le directeur de l'École nationale de la magistrature, qu'il y avait, dans la magistrature française à l'heure actuelle, 8000 personnes environ, 8 femmes sur 10 comme magistrats. Par conséquent, on arrive là, au contraire, à une domination des femmes, pour des raisons qui sont peut-être explicables et valables, mais il n'empêche qu'on arrive là aussi à une inversion du système égalitariste. Alors, c'est pour dire que toute recherche de la représentativité exacte aboutit peut-être à des échecs ou à des injustices ou à des systèmes difficiles à expliquer. Il faut dire aussi, et c'est un peu lié à ce que je viens de dire, que dans le système électoral, il y a un risque qui est très extrême et qui ne se rencontre peu dans les élections de représentants, mais qui se rencontre de façon visible dans le référendum. Le référendum, on peut dire, il est merveilleux que dans un pays, le peuple puisse voter pour ou contre une loi qu'on lui soumet. Il n'empêche que les votes sont déterminés par des mobiles ou des motifs qui sont très variables et qu'on peut aboutir, avec l'exemple très caractéristique du rejet de la Constitution européenne en 2005, de conjonction des extrêmes. Le corps électoral de ceux qui ont voté contre la Constitution, extrême droite, extrême gauche, et éléments minoritaires dans les partis du centre, c'est très curieux d'avoir abouti à une disparité telle, car cette disparité fait que jamais les gens qui ont voté contre ne pourraient se mettre d'accord pour soutenir un gouvernement ou le défendre. Et par conséquent, on voit que dans ce cas-là, la signification négative des votes est peut-être, à certains égards, le contraire de la démocratie, parce que on aboutirait alors à un blocage complet comme on n'en a jamais connu.
Est-ce que le cas de figure du référendum 2005 ne pose pas plusieurs problèmes? Celui du taux de participation et peut-être de la participation obligatoire ou pas, comme c'est le cas en Belgique. Et puis, deuxième élément, du fait que le suffrage universel aussi peut donner des résultats contraires à ce qui était attendu et que parfois, il y a un fossé entre ce que les élites attendent du suffrage universel et ce que le suffrage universel leur répond.
Oui, et pour répondre d'abord à votre première question, je pense qu'effectivement, on connaît le cas de la Belgique qui est souvent cité, rendre l'obligation de vote, c'est pas seulement un droit, c'est une obligation de vote. La rendre obligatoire, la rendre nécessaire, sous réserve même d'une amende qui est versée par celui qui ne vote pas, je crois que c'est un bon système. Bien entendu, il y aura quand même toujours du déchet pour des raisons physiques, naturelles, locales, peu importe. Il n'empêche que je crois que imposer le vote obligatoire peut avoir un sens. D'un autre côté, le vote est lui fondé sur la volonté elle-même du citoyen et par conséquent on peut dire que le vote du citoyen correspond à son désir d'occuper une place dans la nation et que s'il ne le veut pas, il est peut-être anormal de l'y inciter. Il n'empêche que on est arrivé dans les votes récents, et notamment à propos des problèmes européens, et pas seulement le référendum de 2005, on est arrivé à une importance considérable ou des votes nuls ou blancs et des abstentions. À partir du moment où il y a un abstentionnisme très considérable dans un pays qui refuse en quelque sorte le suffrage universel, ça peut avoir un sens très précis, ça signifie alors une sorte de désintérêt pour les problèmes de l'État, et à ce moment-là, c'est au gouvernement de montrer l'importance de la chose. Mais l'obligation de vote est une chose qui est parfaitement défendable, mais vous le voyez, elle n'est quand même pas extrêmement répandue.
Et à partir du moment où le bulletin blanc, par exemple, peut être reconnu?
Alors, il faudrait, bien entendu, je crois, depuis longtemps à cette règle, c'est-à-dire que le bulletin blanc devrait être compté et non pas considéré comme un suffrage non exprimé. Mais là, c'est encore une règle qui existe en France depuis toujours. Elle n'existe pas dans certains votes en France, par exemple dans les votes dans les universités ou les académies. Les votes blancs comptent et permettent de calculer la majorité. Ça n'est pas le cas pour les votes politiques en France. Et alors là, c'est une règle qui n'a pas de base solide et elle signifie que, après tout, les gens qui ont voté blanc ou nul l'ont voulu, donc ils ont pris leur responsabilité, mais l'effet est quand même un effet pervers. Mais alors là, c'est un problème général et tient à l'esprit même du peuple français.
Et sur la deuxième problématique?
Alors la deuxième problématique, ça, c'est qu'en effet, le suffrage universel comporte des dangers inévitables à partir du moment où il est utilisé dans un pays qui n'est pas démocratique. On croit, et on a raison, que le suffrage universel est le critère fondamental de la démocratie. Il n'empêche qu'il peut être complètement dévalorisé, dénaturé. Après tout, Bonaparte lui-même, mais ça se situait dans un contexte qui est un peu différent, a utilisé le suffrage universel en sa faveur. Mais nous avons à l'heure actuelle, dans des pays comme l'Iran, l'Irak, la Palestine, et peut-être d'autres en cherchant bien, le suffrage universel, s'adressant à des populations qui ne sont pas arrivées à un niveau de citoyenneté correspondant au niveau européen, c'est peut-être absurde de faire une distinction de ce genre, mais enfin, on arrive à faire voter les gens dans ce cas-là, et pour des tyrans, avec le soutien qui est ainsi donné à un régime qui est antidémocratique. Nous avons les exemples que je viens de dire, et personne n'en irait la signification.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question d'interprétation du résultat du suffrage universel, d'accepter que le référendum de l'année dernière ait donné un tel résultat, d'accepter que le Hamas ait gagné en Palestine? Est-ce que les élites ne donnent pas du crédit au suffrage universel à partir du moment où ils leur donnent raison?
Oui, il y a cet aspect-là, vous avez raison. Et d'ailleurs, à l'origine, l'exigence même du système censitaire à l'époque révolutionnaire montrait qu'on voulait que les gens qui votent comprennent quand même ce qu'ils allaient faire et qu'ils aient en quelque sorte une responsabilité dans la décision et une responsabilité dans les effets de la décision. C'était peut-être une vision qui était élitiste, mais à certains égards, elle correspondait à une opinion qu'on pouvait avoir d'un corps électoral déterminé. Mais c'était évidemment contre l'idée de suffrage universel, car suffrage universel, ça veut dire que tout le monde, au moins en tout cas majeur, ou en tout cas ayant un âge déterminé, vote et vote selon ses propres croyances. Et par conséquent, on pourrait être amené à dire, et on le dit d'ailleurs quelquefois, que le vote, quel qu'il soit, est bon à prendre et que par conséquent, il faut l'accepter tel qu'il est. Mais bien entendu, il y a beaucoup de moyens qui permettent d'orienter un vote de diverses manières. Il y a le procédé de la violence, la surveillance, et puis il y a aujourd'hui, et ça c'est un élément nouveau qui a transformé le suffrage universel, il y a l'importance de la médiatisation des relations publiques qui font que les organismes de médiation, et notamment la télévision, ont une conséquence considérable en ce qui concerne le vote. Quand il s'agit du vote pour élire des députés ou des sénateurs, on peut dire que les choses peuvent peut-être s'équilibrer et que la médiatisation ne peut pas avoir d'effet extrêmement grave. Quand il s'agit de référendum ou d'élection présidentielle, la médiatisation peut jouer un rôle déterminant et à ce moment-là, on ne peut pas très bien considérer que le vote est acquis et correspond à une majorité du pays. C'est très variable, bien entendu, mais je pense que quand même, quand le général de Gaulle a attaché tellement d'importance à l'élection du président de la République au suffrage universel avec la révision constitutionnelle de 1962, la médiatisation n'avait pas eu, en France et ailleurs, l'importance qu'elle a actuellement. Et on a beau prévoir une certaine égalité dans la campagne électorale à la télévision et dans la presse et dans les radios, il n'empêche qu'il y a un effet direct dont il faudrait essayer de mesurer la portée.
Vous voulez dire qu'il y a même un dévoiement du suffrage universel par l'intermédiaire des médias ?
Moi, je n'hésiterai pas à le dire, parce que dans le système ancien où les gens lisaient plusieurs journaux et se déterminaient effectivement à partir de journaux, ils pouvaient s'orienter dans un sens ou dans l'autre selon la coloration politique du journal. La télévision, surtout la télévision, malgré les efforts qui sont faits pour la rendre égalitaire, a quand même un effet global qui, à certains égards, aboutit quand même à des conséquences qui peuvent être contraires éventuellement à la volonté même de ceux qui votent. Peut-être c'est une question qui mériterait d'être étudiée de près, mais il n'empêche que l'élection présidentielle, depuis l'importance prise par les médias, c'est-à-dire depuis 20 ans, a pris une toute autre coloration. Les télévisions en parlent très longtemps à l'avance, très longtemps après, avec des séances de discussion qui sont, à mon avis, complètement dénuées d'intérêt. Et par conséquent, il y a là quelque chose de nouveau et qui devrait être intégré dans les mécanismes de vote pour qu'on puisse en tenir compte. Mais comment aboutir à un équilibre parfait dans le système médiatique avec l'importance qu'il a prise aujourd'hui.
Vous suggériez, par exemple, en comparaison avec les journaux, que telle radio ou telle télévision puisse avoir une couleur politique affichée et non plus cet amalgame qui se veut neutre mais qui finalement n'est pas si neutre que ça.
Vous avez raison, c'est possible. D'ailleurs, il n'est pas interdit de créer une radio d'extrême gauche ou d'extrême droite et je crois qu'elles existent. Je crois qu'elles existent et que par une radio ou une télévision, c'est peut-être plus difficile. Mais en revanche, au-delà de ces distinctions qui apparaissent de façon évidente, il y a une constante dans le système médiatique qui fait que l'égalité n'apparaît pas et que, en tout cas, il y a un sens, un langage, une méthode, des choix d'événements qui dénaturent complètement une situation politique, alors que, à l'époque des journaux et des journaux ayant des couleurs politiques différentes, le problème n'était pas le même, mais on peut dire que c'est parce que les gens étaient justement moins informés. Par conséquent, il y a aussi là un choix qui est peut-être très subjectif, et je ne prétends pas détenir la vérité sur ce point-là.
Il ne faudrait peut-être pas non plus embellir un passé de suffrage universel qui serait plus beau que celui d'aujourd'hui, puisque à cette époque-là, il y avait aussi d'autres sortes de dévoiements, des autorités locales, des tendances politiques qui s'imposaient aux personnes qui avaient peut-être moins de volonté individuelle.
Vous avez parfaitement raison. Dès le début, le suffrage universel a été faussé, mais il avait quand même l'avantage par sa masse même, d'aboutir à quelque chose d'assez précis. Je citais cette formule d'un homme d'État italien du XIXe siècle qui disait « La pire des chambres vaut mieux que la meilleure des antichambres ». Autrement dit, il voulait dire par là que même si un Parlement a beaucoup de défauts, aussi bien dans son élection que dans sa présentation, il est quand même meilleur qu'une dictature. Alors, on peut raisonner en effet de cette façon et considérer que le suffrage universel peut dégénère effectivement, mais qui, malgré tout, il apporte des garanties que jamais un régime autoritaire n'apportera.
Vous voulez dire qu'aucun suffrage universel n'est parfait, neutre
On vient de le voir, notre conversation l'aura montré, il y a beaucoup de difficultés à la mise en place, il y a beaucoup d'abus qui peuvent être commis, il y a beaucoup de lacunes qui existent, et que finalement le suffrage universel est peut-être un -10 ans, mais que c'est quand même un système qui est le critère, avec la reconnaissance des droits, le critère de la démocratie. La démocratie, c'est le droit de s'opposer à un autre quant à ses idées, d'une part, et d'autre part, le droit d'être électeur dans une élection, quelle qu'elle soit.
Donc un élément nécessaire, mais pas suffisant.
Voilà.
Monsieur Drago, je vous remercie.
Merci bien.
Et je vous rappelle donc que vous pouvez retrouver cette émission en médiathèque. Elle est téléchargeable gratuitement, tant que vous voulez. Merci, bonne journée. Thank you.